Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 613 d'Invino BFM. Vous le savez, notre émission est la seule au monde en langue française à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable. Nous parlerons de l'excellence du champagne avec le champagne Krug, l'appellation Chablis, une belle balade en Écosse, le livre « Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre, édité chez Erol, le vignoble L'Orgeril. Là, nous sommes du côté de Cabardès, les anciennes variétés de vignes, et comme chaque week-end, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux, en compagnie d'Antoine Cohen-Potin, David Cobold et Philippe Forbach. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Alors, Antoine, dans l'agenda du vin, nous commençons par, on est très proche d'ici, hein, par Montmartre.
Oui, à Montmartre, il y aura la 83e édition de la fête des Vendanges, qui aura lieu du 5 au 9 octobre sur le thème de la liberté. Différents événements sont organisés avec la marraine de l'édition, Camélia Jordana, et vous aurez avec elle la possibilité de participer à la soirée des vins rebelles le jeudi 6 octobre ou encore au banc des Vendanges le samedi 8 octobre.
Les vins rebelles, David.
Il faut aller voir.
Il faut y aller.
Il faut y aller. Et on ira. Et on ira.
Philippe est très spécialisé dans les vins de Montmartre. Hein. Donc
Suresnes, Montmartre.
J'aime bien suivre ce qui se passe. Et j'avoue que le millésime 2015 que j'ai eu l'occasion de goûter dans les caves de la mairie du 18e, parce que c'est là où ils le font.
Il est prometteur, non?
Non, mais franchement, le 2015 que j'ai goûté en fût.
Et pas si mal.
Et pas si mal. C'est vrai que le millésime se prête quand même à avoir le sourire quand on goûte.
Oui, c'est bien.
Alors, pour plus d'informations, les réservations sont possibles depuis le 19 septembre sur le site fêtesdesvendangesdemontmartre.com.
Allez, on va dans le Puy-de-Dôme.
Oui, du 7 au 9 octobre, vous rendez-vous pour la 17e année consécutive à la première étape de la saison des salons des vins de France et de la gastronomie. Alors, cette première escale se passera au château de Parentigna, dans le département du Puy-de-Dôme, et les visiteurs auront l'aubaine d'unir bon vin et bonne chère à leur palais affiné. Il y a un tarif, c'est unique, ça coûte 6 euros, c'est gratuit pour les moins de 18 ans, accompagné d'un adulte. Information sur le site salon-vindefrance.com.
À la direction.
Antoine, rassurez-moi, moins de 18 ans, on n'a pas le droit de consommer. Quand
non, on ne consomme pas.
On peut accompagner les parents, c'est tout. Voilà. Et puis un petit stand pour les enfants.
Un jus de fruits.
La vallée du Rhône, qu'est-ce qui se passe là-bas?
Il y aura les 18e vendanges de l'histoire, les samedis 15 et dimanche 16 octobre, à Chusclan, dans la vallée du Rhône. Et vous pourrez remonter d'ailleurs le temps d'un week-end, ou ne serait-ce que quelques heures, pour profiter de l'ambiance vigneronne du sud rhodanien du début du XXe siècle. Alors, au programme de ces deux journées, des vendanges à l'ancienne, des dégustations de vin, un bal des vendanges et bien plus encore. Tout savoir sur le site internet fêtesvigneronneschusclan.com.
Chusclan, comment ça s'écrit Chusclan? Parce que parfois...
Alors,
il y a le Chusclan, non?
Non, pas du tout, c'est C-H-U-S-C-L-A-N.
.com. Et enfin, Lille.
Eh bien, Lille, c'est le prochain dîner du Wine and Business Club qui aura lieu le mercredi 19 octobre au restaurant La Laiterie. Au menu, l'économie, la gastronomie, bien sûr, les grands crus. Plus d'informations sur winebusinessclub.com.
Merci Antoine Cohen-Potin. Philippe Forbach, un commentaire sur le millésime 1960.
Il a plu.
Il a plu, j'ai terminé. Il a plutôt fallu
le boire vite. Enfin, c'était très pluvieux tout ça. Non, c'est pas un grand millésime. C'est vrai qu'il est né entre deux Stark. 59, juste incroyable. 61, légendaire. Et finalement, 60 au milieu, écoutez, il fallait bien laisser respirer tout le monde. Mais justement, c'est une bonne question, puisque c'est mon année de naissance.
Oh,
c'est bien
la seule façon
de sourire de ce millésime. Mais il faut dire quand même que, étant de février, j'ai été conçu récemment.
On n'a pas douté en
59. Et j'ai commencé à marcher en 61. Voilà, ça miracle. Donc, quelque part, on peut se raccrocher un peu aux branches.
Alors, mais quelques people qui sont nés en 1960.
Alors, oui, néanmoins, Morane, par exemple. La chanteuse Morane, une voix magnifique. Christine Scott Thomas, par exemple, ou encore Anne Parillaud, il y a de la beauté dans l'air. Côté garçon, Antonio Banderas, Hugh Grant, Yannick Noah, David Duchovny, Jean-Claude Van Damme, qui est l'acteur préféré de notre ami David Cobold,
Didier Van Cobblet,
par exemple, Eric Emmanuel
Schmitt. Qu'est-ce que c'est que le vin, une fois?
Le chanteur Bono, ou mon ami l'acteur Stéphane Fraisse.
Vous avez tiré une blondinière ou pas?
Ce grand millésime, et nous avons la chance d'avoir un concitoyen du millésime.
Thierry Blondinière, le directeur général d'Invivo Group. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors vous êtes né donc en 60, on l'a bien compris, à Brive-la-Gaillarde. Un diplôme de Nantes, hein, d'Audencia, doublé d'AMI d'HEC.
Bravo à Brive pour le début de championnat, hein, du
voilà,
top 14.
Voilà.
Ça joue pas mal.
Je tenais à dire que je suis né pendant les inondations de la Corrèze.
Ah oui.
Et j'ai pas pu donc
Donc, me déplacer, enfin, ma maman à la clinique, donc je suis né à la maison. À cause des inondations de la Corrèze en 1960 à Brive.
Et tout va bien, Thierry, tout va bien.
Regardez, finalement, tout va bien.
Alors, votre premier job, c'était chez Procter. C'était une belle expérience, hein?
C'est une super expérience, Procter. C'est une expérience anglo-saxonne qui permet de structurer, quand on est un jeune diplômé, sa façon de travailler. Ça donne des repères, ça nous apprend à nous comporter, ça nous apprend à vendre, puisqu'il s'agissait d'un poste de commercial. Donc, on apprend des techniques de vente, comme la vente persuasive. Donc, tout ça, on s'en sert encore aujourd'hui. Donc, c'était merveilleux.
Vous avez également vécu en Angleterre ?
J'ai vécu en Angleterre, voilà, avant le Brexit.
Donc, vous étiez heureux.
J'étais très heureux en Angleterre. Je travaillais pour un groupe cosmétique, Avon Cosmetics, à Knightsbridge, donc c'est plutôt sympa, à Quarry Park. Et donc, quand j'étais en marketing, donc c'était super parce que c'est une expérience de constitution d'une équipe marketing européenne. Et à l'époque, en 1986, l'Europe n'était pas encore complètement comme aujourd'hui. Ouais. Il y avait encore le mur de Berlin, je vous rappelle, en 1989. Voilà. Ouais. Et puis, ça nous a permis d'avoir une super expérience multiculturelle avec différentes sensibilités espagnoles, italiennes, autour des cosmétiques, il y avait beaucoup à dire, comme dans le vin.
Alors, vous avez travaillé avec de très belles marques, hein, Avon, Marange, Delpera. Pour vous, la marque, c'est quoi? C'est le facteur clé de succès numéro un pour une entreprise ou pas?
La marque, c'est ce qui fait rêver le consommateur. Et on a besoin de rêves. On avait besoin de rêves dans les années 80, on a encore besoin aujourd'hui. Et c'est effectivement ce qui communique la qualité du produit, la valeur immatérielle du produit. Et la marque, c'est un driver, en fait, de croissance d'un marché. Quand vous avez des marques fortes, des marques qui innovent, des marques qui se positionnent, qui communiquent, vous avez toujours un marché en croissance bien orienté.
Depuis 2013, vous avez rejoint Invino Group. Alors, le chiffre d'affaires, donc, vous avez dépassé les 6 milliards d'euros. Les différents métiers du groupe, on les rappelle?
Donc, c'est Invivo Group.
Invivo Group.
Mais il y a aussi Invivo Wine, on y reviendra, qui est effectivement la quatrième branche sur laquelle on va travailler maintenant. Donc, c'est un groupe agricole, hein, d'agriculture, donc céréalier au départ, premier groupe coopératif français. Donc, métier agricole, métier de trading international, donc vente de grains partout dans le monde. Métier aussi dans la nutrition santé animale, très international, avec des usines un peu partout dans le monde, sur tous les pays émergents, là où il y a de la croissance de consommation, Mexique, Brésil, en Asie, au Vietnam notamment, et aussi en Chine. Donc une culture très internationale. Et en France, on est aussi local, puisqu'on a des jardineries, Gamme Vert. Et on développe des magasins alimentaires de proximité.
Est-ce que vous allez
en train de
faire vos courses chez Gamme Vert, là?
Je vais souvent chez Gamme Vert.
Il faut y aller plus souvent, là. C'est important
pour
vous.
Très souvent, on trouve plein de choses pour la campagne.
Thierry Blondin,
les bottes en caoutchouc, c'est vraiment un produit qui se vend très, très bien.
Côté céréales, en 2015, 41 millions de tonnes. Cette année, 28 millions de tonnes espérées. C'est chaud, mais vous avez des solutions.
Alors c'est vrai qu'on vit une année incroyable, on n'avait jamais connu ça depuis 1986, c'est 30% de collecte en moins, de récolte en moins sur la campagne,
donc
c'est énorme, et ça veut dire que on est un peu en difficulté, il faut quand même le dire, les agriculteurs ont des problèmes de trésorerie, donc tout le monde coopératif est mobilisé pour les accompagner, pour financer la prochaine campagne, parce que c'est un accident industriel, il faut le dire, et je pense que l'année prochaine, le potentiel de production reviendra. Encore faut-il donner les moyens aux agriculteurs de replanter, de tenir et de payer leurs intrants. Donc, le gouvernement s'est mobilisé, l'Europe aussi, les coopératives. Donc, on est dans une démarche où il faut positiver, et je crois qu'on va rebondir derrière ce problème. C'est un problème quelque part difficile aussi parce que les prix n'augmentent pas. Souvent, on dit effectivement, quand il y a une chute des récoltes, des prix montent. Mais mondialement, aujourd'hui, vous avez une récolte incroyable en Russie qui compense le déficit français. Et donc, on se retrouve vraiment avec la double peine actuellement, c'est-à-dire des prix bas et pas de produits à vendre. Donc, on sait qu'on a une année difficile. Alors, la chance, c'est que la filière céréalière est une filière forte et structurée. Elle peut passer une année difficile, même s'il faut accompagner, bien sûr, certains agriculteurs qui pourraient être en difficulté. Mais dans son ensemble, la filière céréalière est forte. Et donc, à partir de là, on se mobilise pour reprendre des positions l'année prochaine. Alors, Invivo, qui exporte 40% du blé français, nous, on se retrouve contraints d'exporter beaucoup moins, puisque la variable d'ajustement, c'est l'export dans ce cas-là. Et donc on se mobilise. Heureusement, il y a 2 ans, on avait réfléchi à une diversification internationale. Donc, on avait ouvert un bureau à Singapour, à Odessa, on est présent aussi, donc sur la mer Noire. On est aussi au Brésil. Donc, ça nous permet de nous sourcer aussi maintenant, pas qu'en France, pour continuer à garder les positions commerciales françaises. Et j'espère que dans un an, on aura gardé nos positions commerciales françaises et qu'on pourra convertir l'année
prochaine.
Et avec
une super récolte, et puis une hausse des prix.
Et j'espère qu'il y aura tout ça. Il faut positiver.
Thierry Blandinière avec Divo Wines. Vous nourrissez également beaucoup d'ambition dans le vin, racontez-nous.
C'est un nouveau projet, InVivo Wine. Donc, vous voyez qu'on vit dans des métiers parfois contrariants, difficiles. Donc, on a besoin de créer un business résilient, équilibré, et donc équilibrer nos risques. Et donc, on a décidé de développer un nouveau métier. On ne peut pas rester que dépendant des céréales. Et donc, au niveau d'InVivo, on s'est posé la question de voir comment on pourrait travailler avec les coopératives, les caves coopératives, les petites caves coopératives, qui ont besoin peut-être de réfléchir à structurer une plateforme internationale plus forte avec une taille critique pour développer des marques et reprendre des parts de marché à l'export. On sait que le vin français a beaucoup reculé, notamment aux États-Unis, et se mobiliser ensemble. Donc c'est un grand projet collectif avec des caves coopératives, dont la première d'entre elles, Vigna Deis, dans le Languedoc-Roussillon, qui nous accompagne. Et sur Bordeaux aussi, des caves coopératives qui vont nous suivre. Alors pour ce faire, on a décidé d'investir et de racheter des négoces. On a commencé à racheter Mestreza à Bordeaux, une maison historique, et Cordier. Et on regarde aux croissances externes possibles sur des réseaux de distribution aux États-Unis. Ça nous intéresse beaucoup, premier marché mondial du vin, de revenir sur ce marché, ainsi que dans l'Europe du Nord, qui est un marché très intéressant. Je ne parlerai pas peut-être que de l'Angleterre, mais non, quelque part, l'Allemagne et les Pays-Bas sont des marchés très intéressants.
Et les marchés scandinaves aussi.
Et les marchés scandinaves.
Cordier, une marque très forte, hein, au niveau national et international.
En Russie en particulier, je crois.
Cordier, c'est une histoire incroyable. Hein. C'est plus de 100 ans d'histoire à Bordeaux, tournée vers l'international. Quand on a repris Cordier-Mestreza, en fait, c'était la fusion de deux entreprises, Mestreza et Cordier. Donc, on a redissocié ces entreprises pour créer un Mestreza Grand Cru. Donc là, c'est notre maison de haute couture. À l'international, c'est important pour l'image. Donc, tous les Grands Crus bordelais, on a de belles allocations sur l'année 2015. Ça, c'est plutôt très positif pour se présenter à l'international. Et Cordier, on en fait une entité de marque premium. Donc la marque Cordier, on souhaite vraiment communiquer sur la marque, la positionner en France autour de 10 euros, à 20 dollars aux États-Unis, et travailler la qualité le long terme, et le positionnement d'une marque qui s'installerait progressivement, durablement dans les rayons, notamment à l'international. C'est un peu notre maison de prêt-à-porter à côté de Mestreza, qui est notre maison de haute couture. Ça nous permet d'avoir une offre beaucoup plus large quand on va à l'international, et donc d'avoir une crédibilité quand on arrive face à un distributeur américain.
InVivo Tech, qu'est-ce que c'est ?
Alors, 2020. InVivo Tech 2020, c'est le grand projet de transformation numérique du groupe InVivo. Donc, c'est un projet très intéressant puisqu'on est en train de changer progressivement les valeurs de l'entreprise, de les faire évoluer vers plus de côté entrepreneurial, ce qui est important aujourd'hui, de réactivité, d'agilité. Donc, on est un groupe qui a besoin de s'alléger et d'être beaucoup plus réactif. Et le numérique est un outil fantastique pour ça et va accompagner la transformation culturelle du groupe. Très rapidement, on s'est fixé 3 ans pour faire ce changement. On a aussi décidé de changer de lieu. Donc, on va quitter la maison historique, la grande maison à Paris. On va aller à la Défense à Carpe Diem, qui est une tour toute moderne, connectée. Donc, on va changer la méthode de travail des salariés. Ils vont travailler sur des plateformes collaboratives. Donc, c'est aussi tout ça, le numérique. C'est surtout faire évoluer la culture pour s'inscrire dans le futur.
David Cobol, vous avez une question à poser à Thierry ?
Oui, j'avais une question, Thierry. Vous êtes, je crois, ou êtes-vous plutôt, je vais poser la question comme ça, engagé dans cette nouvelle entité ou nouvelle présentation de l'offre d'entrée des gammes en France, Vin de France. Je crois que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez.
Alors là, on touche à un sujet à la fois économique et politique. Pendant des années, la France a bâti son modèle sur les AOP et les IGP. Se pose la question de se dire, est-ce qu'en France, on peut pas valoriser du vin de France avec des marques à valeur ajoutée? Il s'agit pas de faire du premier prix, du bas de gamme, mais de valoriser à partir d'un terroir français plus large.
Et pour concurrencer des grands acteurs internationaux.
Et pour concurrencer les Galops et autres qui fonctionnent avec un marketing qui s'appuie sur un vignoble compétitif. Et derrière, des qualités de produits qui répondent à des sensibilités différentes au niveau des consommateurs. Et donc, avec un positionnement, segmentation, marketing très forte. Et à valeur ajoutée. Quand vous êtes aux États-Unis, moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous avez le prix moyen de la bouteille, on en parlait, c'est 7 dollars. Tout confondu. En France, on est sur 2,50
euros. Oui, donc là, il y a quelque chose.
Donc, il y a quand même, en termes de création de valeur, il se passe quelque chose. Et donc, ça veut dire très vite, des entreprises comme Gallo qui font 4 milliards et qui ont de la valeur ajoutée vont avoir un pactole à investir. Et ça serait dommage que les Américains, parce qu'ils gagnent plus d'argent, viennent acheter des Français.
Ouais. CQFD. Voilà, on va suivre tout ça. Pour terminer, vous êtes un fan de rugby. Un pronostic pour Mont-de-Marsan, qui joue en Pro D2. Vous êtes vice-président du club cette année. Il remonte en top 14 ou pas, Thierry ?
Mais je crois que, alors là, je vais me mouiller.
Ah.
Je crois que cette année, on va pouvoir remonter en top 14 parce que la compétition
nous
est
sommes beaucoup, en début de saison, attention. Et enfin, Thierry, pour terminer, donc il paraît que vous êtes très proche d'un certain garçon qui s'appelle Dan Carter.
Daniel, pour les intimes, hein, Daniel. Oui, mais Dan Carter, c'est notre ambassadeur, la marque InVivo. Donc, on va faire bientôt une réunion avec les cadres, donc il va venir prendre la parole. C'est un fantastique ambassadeur. Quand il prend la parole, c'est quelqu'un
qui... Est-ce qu'il aime le vin, quand même?
Il adore le vin.
Bon, très bien.
C'est un bon vivant, vin, oui. Convivial.
C'est un sacré joueur, je l'ai vu. Le match contre Toulon, ouais. Où il a fait un match extraordinaire.
Ah, c'est magnifique. Ouais. Bon, pour terminer, Thierry, bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Vous êtes un fan du champagne Krug ou pas?
Ah oui, absolument.
Bah, ça tombe bien, Thierry Blandinière, le directeur général du groupe InVivo. Nous recevons donc maintenant Maggie Henriquez, qui est la présidente de ce champagne Krug. Bonjour Maggie.
Bonjour.
Vous aimez les céréales ou pas?
Et
les céréales, vous aimez les céréales? Parce que Thierry,
oui,
a dit qu'il adorait.
Oui, je mange les céréales deux fois par semaine.
Deux fois par semaine, racontez-nous. Vous êtes diplômé donc d'Harvard notamment. Vous avez beaucoup travaillé en Amérique du Sud. Hein. Racontez-nous un peu le début de la carrière.
J'ai travaillé au Venezuela avec Seagram. J'étais la présidente de Seagram. Après, j'ai travaillé au Mexique. J'étais présidente de Nabisco au Mexique. Et de là, je suis partie, je rejoins les groupes Moët Tennessee, je suis partie pour diriger les propriétés de Moët Tennessee en Argentine.
Belles aventures.
En 2008, j'étais appelée par Christophe Navarre, le président de Moët Tennessee.
Que l'on salue.
Qui m'a invité à rejoindre la maison Krug.
Alors, un mot sur l'historique de cette maison. Tout débute en 1843, Maggie.
Exactement. Voilà, c'est un homme qui est né en Mayence. De Mayence, 1800, Mayence c'était France, c'était très très importante parce que lui, il rêve de venir en France, de devenir citoyen français, donc il part, il arrive en France en 1834.
D'accord.
C'est à peu près comme moi, mais un siècle plus tard, enfin plutôt pour
lui. Exactement. Non, mais
j'ai pas fondé de maison de champagne.
Mais tu n'as pas, vision, tu vois, il arrive, il commence à travailler en Champagne en 1834. Et ils se rendent compte que, voilà, la philosophie en Champagne ne les laisse pas imaginer, toutes les années, créer cette expression la plus riche en Champagne. Comment ils peuvent faire pour donner les meilleurs toutes les années? C'est à la base de la fondation de la maison Krug. Et ils fondent la maison Krug à ses 43 ans. Donc, il a peur de mourir. Il laisse tout écrit pour son fils. Donc, c'est un vrai hommage à la transmission. On a toute la philosophie de la maison écrite dans un petit carnet qui a été retrouvé par les grands-pères de Vivier et qu'on l'a re-retrouvé en avril 2010.
Oh là là là, comment est-ce qu'on peut définir le style Krug?
On peut définir le style Krug par beaucoup de caractères, de richesse et de finesse en même temps.
Et c'est plutôt la champagne, quoi, d'apéritif, de dîner, matin, midi et soir, un peu comme Thierry Blandinière?
Bon, c'est un champagne pour boire comme on voulait, mais il accompagne très bien la nourriture. Il faut surtout toujours le boire dans un bon verre. Hein.
Ah, c'est ça. Très c'est important,
pas
ça.
De flûte, pas de flûte. Hein.
Et c'est des coupes, des flûtes, qu'est-ce qu'il faut alors?
Des flûtes, ni des coupes, ni des flûtes. Des flûtes, c'est comme aller en concert avec les bouchons d'oreilles. Donc on va sentir que les sons plus forts. C'est la même chose, les arômes plus forts et les saveurs plus forts. On perd toute la présence et tout la fragilité qui fait à l'harmonie de ce champagne. Donc il faut toujours un verre à vin.
Parce que Philippe Aubrac,
oui, Marguerite a raison d'insister. La mise en scène, la mise en valeur du champagne, c'est quelque chose d'important. Malheureusement, il y a beaucoup de champagnes qui ne sont pas bues dans les bonnes conditions. Trop froid, la température, c'est juste inimaginable. Une flûte réductrice, même si ça visualise bien la bulle. La coupe est à proscrire, mais ça, on l'utilise de moins en moins, même si c'est joli. Mais c'est pas utile pour le champagne. Le gaz s'en va comme ça, on profite pas. On travaille maintenant beaucoup, ou on communique beaucoup sur ce qu'on appelle le verre à champagne, c'est-à-dire avec une cavité suffisamment ample, légèrement resserrée quand même pour qu'on profite des arômes, et non plus de se dire on va boire un vin avec une bulle aussi fine soit-elle, mais un vrai vin de champagne. Et quand on goûte du Krug, vous posiez la question, Alain, de savoir à quel moment, etc., on va goûter de la matière, on va goûter de la complexité, on va goûter une certaine évolution. Et c'est vrai que le fondateur, il a imaginé de faire cette cuvée qui est la race même de la maison, et dans beaucoup de maisons, c'est-à-dire une cuvée reproductive qui soit chaque année un petit peu dans le même esprit.
Mais avec une vraie personnalité.
Il y a un vrai goût.
Dans la gamme, Maggie, qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme Krug?
Oui, là, voilà, aujourd'hui, parce que tout a commencé par son idée, la cuvée numéro 1, qui est cette expression la plus riche en champagne, comme l'hommage à la champagne à chaque fois. Et la cuvée numéro 2, c'est la cuvée des circonstances. C'est le millésime, c'est l'histoire de l'année racontée par Krug. Et 150 ans plus tard, la philosophie de la maison, c'est essayer de comprendre chaque terroir, chaque vignoble, comme un vin. Donc, on a découvert des solistes. Donc, on a les, aujourd'hui, on a Croque-Claude Duménil, Croque-Claude Ambonnet, et on a, bien sûr, qui est arrivé aussi 150 plus tard, les Croque-Rosé, qui c'est dans l'imagination de la cinquième génération, c'est ce qui c'est pour eux le meilleur brossé qu'ils pourraient recréer.
Quoi. Alors, on a parlé de In Vivo Tech 2020. Vous, c'est 1843. Alors, c'est très digital, Croque, ou pas trop, alors?
Très, voilà. Nous, toute la bouteille des Croque, on Croque idée. On les tourne derrière de la bouteille, la contre-étiquette. On a une Croque idée, on a une Croque app, on a les Croque.com, et on peut aussi l'envoyer par Twitter. Il y en aura des réponses avec les liens pour avoir l'histoire de la bouteille.
C'est une vraie famille, Croque. Les gens communiquent.
Absolument.
Vous êtes la maman de tout le monde. Hein,
oui, un peu.
Il y a un paquet d'enfants, quand même. Hein.
oui, avec plaisir. Hein.
Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Vous vous intéressez aux poules et aux œufs, là? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, nous, basé sur la philosophie de la maison, la base de la philosophie, qui c'est d'essayer de comprendre chaque vignoble comme un ingrédient, comme un seul ingrédient, on a un programme annuel, qui est un programme global, qui est basé sur un seul ingrédient. Donc l'année dernière, c'est la pomme de terre, et cette année, c'est l'œuf. Donc on réunit des chefs de partout dans le monde, et on fait vraiment une collection photos.
C'est l'œuf dans toutes ces...
Et c'est l'œuf dans l'imagination pour créer des propositions qui vont aller avec croquant de cuvée. Par exemple, maintenant, on trouve à Roberto Rispoli des Royal Monceau, où il y a la proposition des verres de Croque avec une inspiration de un Croque.
C'est extraordinaire. Ça. L'année prochaine, vous savez déjà qui va être le.
On sait déjà quel est le seul ingrédient.
On peut le dire ou pas?
Ah non.
C'est encore un secret.
Secret.
Bon, la partie distribution, comment ça se passe? Est-ce que Croque se porte bien?
Très bien. La partie distribution, on est partout dans le monde, distribué à travers des réseaux des distributions de Moët-Hennessy.
De Moët-Hennessy directement, ouais. Quoi. Et donc.
72 pays.
Vous exportez beaucoup?
Oui,
oui, beaucoup. Et en France, on trouve Croque, oui. Alors, en grande distribution, non.
Non.
En revanche, dans les circuits spécialisés,
mais
quoi.
Oui, et ça va très bien.
Et pour terminer, donc, ça coûte combien une bouteille de Croque? De combien, on va dire?
Ça dépend si c'est Croque Grande Cuvée, c'est autour de 159, 160. Et après, on va millésime. Les prix de chez Croque, c'est basé sur la rareté. La qualité, c'est écrit dans les petits carnets. Mais son aura la même qualité dans tous ces champagnes. Mais on va de la précision totale dans les clos, très, très rare, parce qu'on fait 4-5 000 bouteilles des clos d'Ambonnet dans tous les 2-3 ans pour le monde entier. Donc ça peut aller jusqu'à 2 500-3 000 euros
pour la vraie bouteille. Rareté, quoi. Merci Maggie Henriquez, la présidente du Champagne Croque et du BFM. On trouve maintenant le grand sourire de Philippe Forbach, notre meilleur sommelier du monde à nous, pour une balade, j'allais dire, dans l'autre pays du Chardonnay, Chablis.
Oui, légèrement plus au sud que la Champagne. Et d'ailleurs, les deux régions étaient extrêmement liées depuis toujours, liées, étaient encore plus liées à une certaine époque. On a redessiné après Phylloxera, on a recentré les choses, mais on trouve le même cépage, on a un peu le même type de sol, surtout Chablis, en tête nord de la Bourgogne par rapport à la Champagne, et très différente du reste, finalement, de la Bourgogne. Alors, on est dans l'Yonne. Chablis, alors c'est pas une révolution, j'ai pas choisi l'appellation la plus méconnue qui soit, au contraire, c'est une des appellations les plus fameuses du monde, d'ailleurs dans certains pays, on évoque souvent autour de la table l'internationalisation à la fois du goût, des idées, des images et des vins. Chablis, pour certains pays, notamment aux États-Unis, c'est synonyme de vin blanc. On va boire chardonnay, et surtout de chardonnay, c'est-à-dire on va boire un verre en dehors du repas et on demande presque un chablis, même si c'est effectivement un chardonnay qui vient peut-être des États-Unis ou d'ailleurs. Donc il y a une notoriété qui a un peu comme pour le mot champagne d'ailleurs, pour l'appellation champagne, qu'il faut savoir gérer, maîtriser, faire en sorte qu'elle soit respectée. Et donc c'était la première chose que je voulais rappeler, c'est que le Chablis, c'est vraiment un vin d'une région viticole française située dans le département de l'Yonne, à côté de la ville d'Auxerre. Deuxièmement, c'est une région qui est une appellation qui a souffert cette année. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que eux, il y en a plein, hein. Vitou, il n'y a pas longtemps, Volnay, comme de ces dernières années, dans le sud-ouest aussi, enfin, la Charente,
la Loire,
beaucoup, le Beaujolais a aussi eu sa dose, comme on dit, mais le Chablis, cette année encore, la grêle, notamment, et le gel, même si le gel, ils sont habitués. C'est d'ailleurs l'appellation qui a le plus investi depuis des années dans la protection de son vignoble.
Comment on peut faire pour protéger?
En installant justement un système de chaufferette, par exemple, qui permet alors au départ c'était des chaufferettes installées, on sonnait quasiment le tocsin pour appeler les gens dans la vigne et on allumait les feux de bois. Après ils ont installé un système au gaz automatique, quand la température descend dans une limite dangereuse pour le gel, ça se met en route et les chaufferettes s'allument. Et puis effectivement, il y a un système d'aspersion qui permet d'enrober finalement la vigne et le grain de raisin pour stabiliser une température de zéro. Et finalement, un peu comme pour le phénomène de l'igloo, à l'intérieur de l'igloo, il fait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. Mais c'est la même chose effectivement pour la vigne ou pour le raisin. Donc c'est une appellation qui
est pour ça qu'on appelle les Chablisiens les Esquimaux de la vigne.
C'est possible que c'est comme ça qu'on les appelle.
Ouais. Non, c'est les Champenois.
Non, mais c'est de l'humour d'un ex-anglais néo-français. Donc c'est bon.
Alors Chablis, c'est une appellation assez importante. C'est quasiment 5000 hectares de vigne, ce qui est déjà assez considérable pour une appellation contrôlée. Et plus exactement, il y a quatre niveaux d'appellation. L'appellation Petit Chablis qui couvre à peu près 700 hectares. Des vins simples qui sont entre 5 et 10 euros, super accessibles, vraiment sympa à ouvrir. On n'hésite pas à ce prix-là et avec la qualité souvent qui est au rendez-vous. L'appellation Chablis, c'est la partie la plus importante de la production, environ sur 3500 hectares. C'est la plus connue automatiquement puisque c'est celle qui est le plus en volume et qui représente bien son appellation. Là, on a des vins autour de 10, 12 euros, même des fois légèrement moins de 10 euros et qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons. L'appellation Chablis premier cru, on retrouve à peu près le même volume en surface, 700 hectares aussi que ce qu'on avait en petit Chablis. Il y a 79 climats, c'est le système bourguignon de terroir ou de lieu-dit ou de parcelles communales qu'on appelle des climats. Donc 79 climats qui peuvent revendiquer cette appellation ou ce niveau d'appellation premier cru. Et puis il y a une centaine d'hectares dont les gens rêvent, les amateurs de grands vins, qui sont les fameux grands crus, qui sont au nombre de 8. Alors je vais rapidement les citer. Les Clos, par exemple, qui est plus important en volume, Vaudésir, Valmur, Blanchot, Bougros, Lépreuse, Grenouille et même le Moutonne, donc qui complète la liste des 7 premiers, qui est à cheval à la fois sur Vaudésir et Lépreuse.
Comment ça vaut tout ça?
Et là, on est à partir de 25-30 euros, mais on peut avoir aussi des premiers crus célèbres et plus rares, autour de 40 ou 50 euros.
Enfin, le rapport était bien à ce bon, Philippe.
Exactement, parce qu'on parle toujours de grands crus, puis toujours on a peur. On va jamais avoir les moyens. De temps en temps, s'offrir un grand cru de Chablis à 40 ou 50 euros, c'est accessible.
Quelques vignerons peut-être, Philippe?
Oui, alors bon, il y a des domaines incontournables, je pense à La Roche par exemple, des petits producteurs comme Ravenneau ou Dovissa, une cave coopérative modèle, la Chablisienne.
Excellent.
Un très très beau travail. Des maisons,
salut son directeur général,
Bonoise, Nuiton, etc., mais qui ont investi, je pense à Drouin par exemple, ou Drouin d'ailleurs les deux, parce qu'il y a Drouin, le négociant, et puis il y a Drouin qui est un producteur également de Chablis, William Fèvre, petit domaine d'Élise, ou encore les vins de Pierre-Étienne de Fex, par exemple, que j'aime beaucoup et qui sont très originaux.
Merci
et
beaucoup.
Vieillissent très bien.
Philippe Forbach, nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour au bar à vin restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour le Vino Quiz et parler de l'Écosse.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour le Vino Quiz avec Philippe Forbach.
Je continue, on vous a rappelé le principe.
Bien sûr.
Et chaque semaine, on repose une question dont le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club.
Oh, waouh, je veux.
N'est-ce pas, c'est génial. Hein. Alors, la semaine dernière, la question était, rappelez-vous, dans quelle région ne trouve-t-on pas de Zinfandel?
Ah, ne trouve-t-on pas, c'est un peu pervers comme question. Hein.
Réponse A, Espagne. Réponse B, Californie, ou réponse C, Croatie?
Et la bonne réponse, Philippe? Et
c'était en Espagne.
Cette semaine.
Réponse A. Alors, la nouvelle question de cette semaine porte sur la maison Krug. En quelle année a été fondée cette fameuse maison de champagne Krug? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de 1772? Réponse B, 1818? Ou réponse C, 1843? Hein? Concentrez-vous. Écoutez bien, et pour répondre, on vous le gagne, hein, on vous le souhaite, pardon, et gagnez un exemplaire du guide des vins du Wine & Business Club. Vous pouvez nous envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail suivante, invino@vinojeux.com. On espère que vous allez être tiré au sort.
Merci beaucoup Philippe Arbrac, Antoine Coët-Potin, le président du cercle Gaston Phébus est parmi nous. Alors aujourd'hui direction l'Écosse, hein, d'où votre temps allait quoi.
Et oui, très bien. Bah, écoutez, bonjour Alain, que vous soyez alors chasseur, pêcheur, golfeur, amateur de gastronomie, de produits authentiques et de grand air, allez passer un week-end en Écosse, c'est formidable. Alors plus précisément, je le dis à David Cobbold, dans la région d'Inverness, dans les Scottish Highlands. J'espère que mon accent ira au cours de cette chronique. Le climat est très agréable. Les Écossais sont très accueillants, la nourriture
est excellente. Le climat est, disons-le franchement, variable.
Et pour la chasse, c'est formidable.
Ça va. Et pour la pêche aussi.
Voilà. Donc la nourriture est excellente. Et en plus, cette partie du Royaume-Uni a dit un oui massif en juin dernier à son maintien dans l'Union européenne.
C'est deux fois formidable.
C'est un très très bon point.
Alors, pour visiter cette magnifique région, je vous suggère d'établir votre camp de base au Glenmorangie House sur la péninsule de Rosshire, à proximité de la distillerie de Tain. Alors, c'est l'une des 9 maisons qui bénéficient en Écosse du label rouge attribué par le guide Michelin. C'est une vaste demeure pleine de charme qui compte 6 chambres et 3 cottages et un parc magnifique. Alors, cet hôtel de charme face à la mer aurait peut-être pu servir de décor à un film d'Alfred Hitchcock. Eh ben, cette maison va proposer les 21 et 22 octobre.
Il y a Anthony Perkins qui sort de la douche avec un couteau.
Surprise, je ne répondrai pas. Et va proposer les 11 et 12 novembre des week-ends d'initiation et de découverte du whisky. Alors, c'est un excellent prétexte pour y aller.
Alors, à ne pas louper, qu'est-ce qu'il y a à ne pas louper ?
Alors, d'abord, je crois qu'il faut surtout visiter la distillerie. La distillerie Glenmorangie a été fondée en 1843. Et ces alambics sont les plus hauts du monde. Alors vous allez prendre conscience de l'importance en visitant de l'eau dans l'élaboration du whisky qui doit être d'une immense qualité. Et ici, elle provient de la source de Tarlogy. Je ne sais pas si on prononce comme ça.
Tarlogy.
Alors vous participerez bien sûr à des ateliers de découverte des saveurs de whisky et découvrirez des notes d'orange, de chocolat et participerez aussi à des dégustations à l'aveugle. Alors il y a un chef qui est formidable, qui s'appelle John Wilson, qui est le chef du restaurant, qui élabore lui avec talent, je dirais, des produits du terroir que l'on trouve tout autour de Glenmorangie, de l'hôtel. Alors bien sûr du bœuf Angus, de l'agneau, des champignons, mais aussi les produits de la mer d'Écosse, du saumon sauvage, des langoustines et des homards qui sont pêchés à proximité. Alors c'est une cuisine de qualité, pas prétentieuse, comme on l'aime le week-end en famille pendant les vacances. Alors pour les plus curieux, comme David, je lui conseille bien évidemment le haggis, la panse de brebis farcie.
J'adore le haggis.
C'est très bon.
Jamais français, David. Hein.
Mais les Français ont peur du haggis parce que c'est comme moi, je pourrais avoir peur de l'andouillette. Mais au fait,
c'est très bon. C'est très bon.
C'est beaucoup moins sévère que l'andouillette.
Bon, on fera un effet. En tout cas, moi, je l'ai dégusté.
Postulé en Suisse ou en Irlande.
Je l'ai dégusté avec un Ardbeg. J'ai fait un faux bon au Highland. J'ai été sur l'île de Islay pour prendre un whisky très tourbe.
C'est vrai que la tourbe, ça va bien avec la haggis.
Voilà. Alors l'hôtel, je dirais, met en valeur bien sûr les spécialités culinaires de la région, mais aussi celles artistiques ou artisanales. Alors je pense d'ailleurs aux nombreux tartans que l'on retrouve un peu partout dans les chambres. Ils ont été créés par une manufacture qui se trouve à proximité, qui est la manufacture de Anta, qui est très connue pour ses plaids, pour ses tapis, et pour utiliser des couleurs, pour les céramiques, des couleurs très peu conventionnelles.
Antoine, est-ce que vous avez remarqué le tartan des McDonald Buchanan ?
Non.
Parce que c'est le mien. J'ai un 8e, donc j'ai droit. Alors, je le porte jamais, puisque c'est un peu les couleurs du drapeau belge ou du drapeau allemand. Donc, c'est un peu criard comme ton. Je préfère le Fraser, qui est beaucoup plus discret, bleu et vert. Mais McDonald Buchanan, c'est jaune, orange et noir.
Alors, j'aurais espéré que pour cette rubrique, vous ayez votre tartan.
Mais non, mais un jour, je le porterai.
Bien sûr. Alors, qu'on fera une télé, plutôt. Hein. Voilà.
Donc, en tout cas, la manufacture d'Anta possède un très beau petit magasin à côté de la distillerie. On peut acheter des produits à prix d'usine.
Alors, Antoine, quand il ne pleut pas, on fait les choses dehors ou pas?
Alors, on fait des choses dehors et on peut même s'initier à la fauconnerie. Alors, la fauconnerie, pour ceux que ça intéresse, c'est tout simplement l'art ancestral de chasser avec un faucon et on chasse au vol. Alors, c'est une expérience, je dirais, unique où on est en contact direct avec l'oiseau de proie qu'on a dans sa main, avec un gant très épais, dans un décor grandiose, et l'animal peut chasser aussi bien du lièvre que des lapins. Alors toujours dans la nature, les amateurs de grand air peuvent bien sûr essayer de pêcher à la mouche le saumon. On peut aussi arpenter les ours.
C'est une pêche passionnante.
C'est magnifique, il faut être très patient.
Vous avez attrapé, David?
Ah oui. Combien? Mon premier saumon, je l'ai attrapé pas très loin de là où était Antoine d'ailleurs. Mais un peu plus nord, dans le Sutherland, tout au nord, sur une rivière qui s'appelle the Helmsdale, j'ai attrapé un qui faisait 8 kilos.
Pas mal. 8 kilos le saumon.
Mon père avait attrapé il n'y avait pas de centrale à l'époque.
C'est sûr que c'est un saumon de 8 kilos.
Oui, oui.
Il paraît que le plus difficile, c'est d'attraper la bouche d'abord.
Non, le plus difficile, c'est de l'amener.
C'est de l'amener. Et puis après, de fumer.
Sans casser sa ligne.
Alors, pour ceux qui ne pêchent pas, mais pour ceux qui chassent, on peut chasser la grouse. La grouse, c'est un animal extraordinaire qui ouvre en général au mois d'août, le 12 août. Ça s'appelle le Glorious 12. Alors, c'est un gibier difficile à tirer, mais qui est délicieux et très tendre lorsque vous l'avez eu. Et on peut le déguster à l'hôtel, bien sûr.
Pour l'attendrir, il est recommandé de le faisander, de le faire suspendre pendant un certain temps, jusqu'à ce que la troisième plume de pignon tombe quand vous le tirez dessus. Et là, c'est mûr.
Alors moi, je ne suis pas de cette école. Je pense qu'il faut prendre du gibier un peu frais. Et on peut le prendre accompagné, par exemple, d'un whisky Glenmorangie Nectar d'Or. C'est un single malt que j'ai dégusté, qui était affiné en fût de chêne par le maître de chai qui s'appelle Bill Lumsden. Alors, on peut aussi le déguster avec un Quinta Ruben de 12 ans, qui est vieilli, en fait, 10 ans en fût de Bourbon, puis 2 ans en fût de Porto Ruby. Voilà. Alors, pour ceux qui ne pourraient pas aller en Écosse cet automne, le chef, lui, sera présent à Paris dans le Marais le 3 novembre prochain, qui est le jour de la Saint-Hubert, où on va réaliser avec le Sergasson Phébus un grand dîner de chasse dans un lieu magnifique qui est l'hôtel Guénégo, qui abrite le musée de la chasse à Paris, juste à côté de l'hôtel.
Alors, que faire autour d'Inverness? Tout le monde se pose la question.
Alors, quand on ne chasse pas, quand on pêche pas, on peut aller visiter un magasin extraordinaire dans un petit village. Ce magasin s'appelle Campbell's. Il est dans le village de Beaulieu. C'est un lieu incroyable.
Campbell's, c'est pas mes amis, parce que les ancêtres ont massacré ma famille. McDonald Buchanan, on déteste les Campbell's.
Je
veux pas entendre parler de cette famille.
Les Donald's, c'est autant pour nous. C'est Donald's, c'est pas Campbell's.
C'est Donald's. Alors, le magasin, il a été créé en 1858, et quand vous rentrez dedans, on a l'impression qu'on n'a pas connu l'emprise du temps. C'est extraordinaire. On sort tout droit, j'allais dire, d'un roman de Dickens ou de Scott. Enfin, c'est fabuleux. Et c'est ici que tous les gardes-chasse de la région viennent chercher leur tweed, mais aussi leur kilt, faire réparer tout ce qui est déchiré. Il y a une ambiance assez étonnante. Et d'ailleurs, la maison Campbell fournit la famille royale britannique quand elle se rend l'été lors de ses vacances à Balmoral.
Et pour terminer, le golf, alors, quand on est golfeur, qu'est-ce qu'on fait pour le golf?
Il y a le choix en Écosse.
Mais il y a surtout un lieu qui est un lieu unique. C'est le golf royal de Dornoch, qui va fêter cette année ses 400 ans. Alors, il est situé exactement, vous devez voir, à 8 degrés en dessous du cercle arctique.
On voit très bien.
Vous voyez très bien. Alors, c'est un parcours historique qui est en bord de mer face à une immense plage qui est balayée par les vents, par les embruns. C'est grandiose. C'est vraiment l'un des plus beaux et des plus mythiques golfs d'Écosse.
Il faut faire gaffe au vent quand même. Il faut que ces balles soient très tendues.
Quand on est là-bas, on va au Link House, non?
Alors, on va au Link House. On va au Club House où on a des produits merveilleux. Et dans le Link House, il y a aussi un restaurant gastronomique qui a une très belle cave à whisky. Et on retrouve les meilleures productions, je dirais, des quatre grandes distilleries des Highlands, c'est Balbert, Klein Elish, Dalmore et Glenmorangie. Voilà. Et en fin novembre, vous le notez bien, il y aura à Dornoch un festival de whisky. Alors, c'est un prétexte de plus pour y aller.
Avec modération toujours.
Bien évidemment.
Merci beaucoup, Antoine Cohen-Potin, du NBFM, avec maintenant Aurélie Labruyère, qui fait partie des 40 chroniqueurs réguliers de notre émission. Bonjour Aurélie.
Bonjour Alain.
Alors aujourd'hui, vous êtes parmi nous pour nous parler de votre dernier livre, coécrit avec Julien. Alors, c'est qui Julien déjà?
Julien Gacon, il est œnologue de la faculté de Dijon. C'est mon associé, c'est le co-auteur du livre.
Alors, vous avez le livre s'appelle donc Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre? 80 crus et 20 expliqués. Alors, le concept, c'est quoi Aurélie?
Le concept, c'est une collection qui s'appelle Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre? Et ensuite, on décline sur différents thèmes. On prend des champs esthétiques, au départ la peinture, et on la raconte.
À chaque fois, on parle de la peinture?
Non, dans la collection, d'accord, on parle de pourquoi ce 80 œuvres sont des chefs-d'œuvre et comment elles ont marqué leur thème, leur histoire, leur époque. Ça peut être donc des tableaux quand on parle de la peinture, et nous on a choisi de décliner pourquoi c'est un chef-d'œuvre sur le vin.
Alors le vin, quelques exemples. Vous parlez du pape Clément, c'est l'un des 80, c'est ça?
Oui, voilà.
Alors pourquoi?
Le livre, il est découpé en 10 chapitres, et à l'intérieur de ces 10 chapitres, il y a des grands thèmes, à la fois l'héritage, les traditions, mais aussi les valeurs qui traversent le monde du vin. Pape Clément, on l'a retenu parce que le christianisme fait partie des racines de notre pays et que, en quelque sorte, ça fait aussi partie des racines de la viticulture. Il y a une histoire de ce pape qui arrive de Bordeaux et qui part ensuite à installer la curie en Avignon. Et ça va rester dans l'histoire, c'est bien connu. Mais c'est d'abord Clément V qui s'installe à Bordeaux parce qu'il avait un vignoble et qui est resté et qui appartient aujourd'hui à Magret.
Le domaine à Bernard Magret, le domaine de Trévalon.
Trévalon, on l'a retenu parce qu'il y a une histoire magnifique d'hommage d'un fils à un père. Éloi, qui rend hommage à son père à travers les étiquettes que son père a dessinées, puisqu'il avait un talent de peintre. Et c'est le père d'Éloi Durbar qui l'a emmené à Trévalon et qui a fondé, bien sûr, le vignoble.
Et Éloi était lui-même architecte, je crois.
Oui,
Oui. Thomas Gassac avec le regretté Méguibert que l'on...
Exactement, alors c'est un hommage aussi.
La mémoire.
Exactement, un hommage dans ce livre à plusieurs vignerons ou producteurs qui sont décédés malheureusement cette année, comme le professeur Dubourdieu, mais aussi comme Jacques Grange en Suisse, et donc Méguibert qui a quitté et qui a laissé avec ses fils une audacieuse aventure d'aller installer des cépages qui n'étaient pas du tout de sa région à Agnane, et de créer un grand cru à la bordelaise en quelque sorte, enfin avec une inspiration bordelaise avec l'aide du professeur Ange Albert, un grand cru qui est né de zéro, de ex nihilo.
Le domaine, évidemment, de la Romanée-Conti, sur les 80, il fallait quand même que...
Voilà, il fait partie du répertoire. De la même manière qu'en littérature, en peinture, il y a un répertoire des œuvres classiques, on a dédié un chapitre aux classiques du vin. Et parmi ces classiques, il y a une institution pour nous en Bourgogne, c'est le domaine de la Romanée-Conti.
Le champagne Belle Époque aussi ?
Oui, Belle Époque, c'est parce que le monde du vin est traversé des liens avec les beaux-arts. Et l'histoire de Belle Époque, c'est une très jolie histoire autour du flacon qui a été dessiné, en tout cas, c'est les anémones qui l'ornent toujours ont été dessinées en 1902 par Émile Gallet, qui est un des grands peintres et un des grands chantres de l'Art Nouveau.
Alors, on parle également de millésime avec un petit vin de comptoir sympa, un Ermitage de la Chapelle 61.
Par exemple, ça, un Palmer 61 aussi. Oui, le temps, c'est la grande valeur du monde du vin. C'est ce qui rend presque la dégustation une expérience métaphysique. Donc, on traverse le 20e siècle et puis un petit peu le 21e aussi avec des millésimes. Le 47 de Cheval Blanc, le 61 de Palmer ou celui de la Chapelle, évidemment.
Quelques millésimes mythiques. Quoi.
Des millésimes difficiles.
Oui. 60,
60. Moins bien. Quoi.
Mais il y a aussi des millésimes délicats. Comme celui de 84, où le domaine de Chevalier a réussi à sublimer une année très délicate. Très là, on voit le
surtout
travail
sur
du
le
vigneron.
Blanc.
Exactement.
Et il y a également quelques vins étrangers sur les 80 crus et vins expliqués.
Bien sûr, parce qu'il y a un rayonnement de la France qui va aux antipodes jusqu'à Tahiti. Hein. Philippe est bien placé, il faut le savoir.
D'où le teint, les permanents, Philippe Orbach. Il y va tous les week-ends à Tahiti. Hein.
Peut-être pas, mais ça fait deux années d'affilée. J'espère bien y retourner pour vous raconter d'autres histoires.
Il faut faire une chronique là-dessus.
D'accord, vin étranger, vous avez quoi par exemple ?
Oui, le Clos de l'Ossieté, qui a été fondé par Michel Roland en Argentine à Mendoza. On a aussi Sassicaia, à qui on rend hommage comme un des grands crus de l'Italie, mais qui a une inspiration elle aussi quasi médocaine en quelque sorte. Angelo Gaia, dans le Piémont, qui lui répond à une espèce de postulation bourguignonne, puisqu'il va faire des climats en Piémont. Il crée le Soli San Lorenzo, qui est aujourd'hui, à mon avis, un des plus grands de son appellation.
Bon, c'est super, faut pas louper Auré de la Bruyère. Le titre, donc, pourquoi est-ce un chef-d'œuvre ? 80 crus et 20 expliqués chez Erol. En plus, c'est donné, c'est combien ? C'est 12,90.
12,90, rien du tout.
Voilà, c'est une excellente idée
et
à lire.
Très facilement.
Et également en cadeau. Une ville de BFM accueille maintenant une autre femme formidable, Myrène de Lorgely. Bonjour Myrène.
Bonjour.
Maintenant, je vous offre le livre d'Aurélie. Là. Vous
allez voir. Oh, merci.
Ça me fait encore, d'autant plus plaisir que les enfants de Myrène sont mes étudiants à HEC.
Ah, très bien. Alors, votre affaire, c'est l'affaire de famille depuis longtemps, Myrène, racontez-nous.
Oui, bien sûr. La maison Lorgely est une maison familiale enracinée en Languedoc depuis au moins 1620. Jusqu'à maintenant, nous y
pourquoi
1620
au moins 1620
ben parce que nous venons de découvrir des textes qui parlent de 1580.
Donc, 1580.
Voilà, on fait des découvertes régulières. Voilà.
Bon, Myrène, au total, vous avez 350 hectares de vignes. Quelles appellations ?
Nous sommes sur 9 propriétaires sur 9 appellations. Cabardès, l'appellation historique la plus à l'ouest du Languedoc. Minervois, La Livinière, Faugères, Saint-Chinian, Languedoc. Côte-du-Roussillon Village et Maury.
D'accord, donc il n'y a que des AOP ou vous êtes...
Il y a des AOP et bien sûr aussi des vins de pays. Mmh. Nous sommes très enracinés sur la partie ouest du Languedoc et la partie fraîche du Languedoc, et où il est très intéressant de faire des vins de pays qui peuvent avoir une vraie authenticité à la fois de terroir et de climat, puisqu'on a ce bel équilibre entre ensoleillement et fraîcheur sur une large palette de cépages.
On zoome un peu sur Pénotier. Quel type de cépage, à quelle appellation vous êtes ?
Alors Pénotier, justement, c'est intéressant parce que c'est l'appellation de rencontre entre le sud-est et le sud-ouest un petit peu. C'est l'entrée en Languedoc quand on vient du sud-ouest, c'est la première appellation qui est juste située dans ce goulet entre les Pyrénées et le Massif central. Cette appellation du Cabardès, qui est une appellation de position d'équilibre entre les deux suds, et son encépagement justement exprime cet équilibre, puisqu'on a à la fois, et c'est unique en France, les cépages atlantiques et méditerranéens, c'est-à-dire Cabernet Merlot et Grenache Syrah, répartis de façon équitable. L'appellation Cabardès, voilà, ça doit être obligatoirement 40% minimum d'Atlantique, 40% minimum de Méditerranéen. Et après, on s'équilibre, chaque vigneron équilibre en fonction de sa propriété.
Philippe Orbach, comme le précise Myrène, c'est assez original. Hein, c'est vraiment, on a les limites entre les deux. Hein.
Alors, on est à la limite d'influence climatologique entre effectivement l'Atlantique et la Méditerranée. Ce qui explique cet équilibre-là et qui fait de cette appellation Cabardès, dont on a déjà parlé autour de la table, un côté tout à fait original. cabernet-cantal. On a d'autres appellations dans les cabernets, les cépages, mais pas dans ce pourcentage-là et avec cette précision-là.
Comment est-ce qu'on peut définir ce type de vin, le style de Pelletier, par exemple?
Eh bien, on va avoir à la fois, la rigueur et la richesse des cépages cabernet-merlot, et en même temps, on aura cette pointe épicée, déjà méditerranéenne, et ça, très équilibré, avec beaucoup de fraîcheur. Ça, c'est une caractéristique très importante. C'est vraiment le point important de cette zone, c'est qu'on est vraiment à cette rencontre entre ces deux climats, à un point dans lequel on a à la fois l'ensoleillement et la fraîcheur, ce qui se ressent beaucoup dans les vins.
BFM Business, on parle évidemment d'argent. Dans la gamme des vins, tout confondu, ça va de combien
pour... Ça va de 5 à 25 euros.
5 à 25 euros.
Oui.
Antoine Compotin. Oui, ce sont des vins qui se gardent combien de temps?
Oh, écoutez, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on avait jusqu'à maintenant peu de recul, mais on goûte par exemple notre cuvée emblématique qui s'appelle l'Esprit de Pelletier. On goûte le premier millésime qui était un 97, est aujourd'hui absolument superbe.
97 en quasiment voilà. 2007.
Voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a une vraie potentialité, même si on s'attache beaucoup aussi au fait que ce soit des vins qui soient aussi faciles à boire assez rapidement.
Assez rapidement, quoi.
On aime ça, il y a une telle puissance de fruits, une telle ampleur que ça vaut le coup aussi de les boire assez jeunes, y compris dans les cuvées les plus expressives.
50% de votre business, c'est en France. Quel type de circuit?
On est 75% sur les circuits traditionnels, c'est-à-dire cavistes. Nous sommes dans les magasins Nicolas, nous sommes chez les jolis cavistes de quartier, nous sommes en restauration aussi beaucoup. Ouais. Ça, c'est très important. C'est là que se fait la visibilité et la rencontre avec beaucoup d'amateurs. Et puis, un gros travail avec les particuliers. On accueille aussi énormément sur place. On a
au niveau du tourisme, vous êtes champion, là. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, là.
Oui, on est champion et précurseur. On s'est engagé il y a très longtemps. Voilà, ouais. Parce que ça fait 15 ans que nous
avons. Alors, racontez-nous, comment c'est organisé?
Alors, le château de Pelletier est donc la propriété emblématique de la maison Lorgerie. Et c'est un château 17e, 18e. Donc, je vous parlais de 1620. Donc, on avait, quand on a repris ce domaine avec mon mari Nicolas, qui est donc lui l'héritier de...
Que l'on salue.
L'héritier historique de la propriété. Et nous avions un sacré défi parce qu'il y avait à la fois un beau vignoble, puisqu'il y avait eu un vrai travail fait dès les années 60 pour... embellir les encépagements de cette propriété. Donc nous avons en 87 récupéré une propriété en bon état du point de vue de l'encépagement, mais pas du point de vue ni des bâtiments ni des savoir-faire. Il y avait beaucoup de choses à faire, et donc ce grand château 17e nous impressionnait beaucoup, et on se disait que le lien avec le vin était très fort, mais on savait pas très bien comment tout faire à la fois. Et très vite, on a été frappé par le fait que partout dans le monde, les vignobles étaient ouverts, alors qu'en France, assez peu. Il y avait une tradition de peu de rencontres avec les consommateurs, alors même qu'on était dans une région magnifique. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Et on a commencé par les petits côtés, on a commencé par avoir un restaurant.
Pour faire un clin d'œil à un vigneron très célèbre que je nommerai, ou Philippe va reconnaître tout de suite, dans une autre région que la vôtre, il était marqué sur son chai « Parti à la chasse » en permanence.
C'est une bonne idée.
Et... La française. Voilà.
Absolument.
Et à la place sur les vins avec le gibier, justement, qui vont avec.
Ah, alors, partent les vins avec le gibier, le château de Pelletier, parfait. Le château de Pelletier, très bien. Moi, j'ai un faible pour l'appellation la Livinière avec le gibier, qui est une appellation son sol schisteux qui donne cette minéralité.
Et vous faites un très bon
le propriétaire de vignes qui s'appelle la Borie Blanche, qui est un très joli terroir là aussi. Alors intéressant, parce que en Languedoc, ce qui est intéressant, c'est de retrouver la fraîcheur, et la Livinière, c'est une appellation d'altitude, donc de fraîcheur.
Et pour l'accueil, alors, donc l'accueil, vous avez quoi, 24 chambres et suites?
Alors, le château lui-même, donc le château de Pelletier, que nous avons entièrement restauré, qui était donc un monument historique, donc c'était très intimidant, il fallait trouver le bon équilibre, la bonne façon de faire. Nous avons effectivement entièrement restauré, avec l'idée d'en faire que ça reste une maison privée, c'est-à-dire que les hôtes sont comme chez eux, et l'idée, c'est que ils puissent être entièrement chez eux, c'est-à-dire que nous accueillons essentiellement des groupes, des familles, des événements, qui sont comme chez eux, donc qui ont l'ensemble de la maison pour eux, et donc on a effectivement 25 chambres, et puis des salles de réception et des salles techniques aussi pour pouvoir déguster.
Antoine,
oui, vous habitez là, c'est vous qui accueillez les gens?
Comment? Alors,
non, c'est David Cobol, il fait des petits extras le week-end, hein, David.
Tranquille,
toujours.
Alors, c'est un peu particulier, nous habitons effectivement là, nous nous efforçons de vivre dans la maison, et en même temps, parce que quand vous vous resserrez dans un petit coin ou dans des communs ou autre, très vite, la maison n'a pas... perd de son âme. Donc nous nous efforçons de vraiment y vivre, mais je vous rassure, on se pousse quand il y a du monde.
On vous verra, c'est bien, c'est pour vous voir.
Puis ils sont très fréquentables quand même.
Quand je suis là, je suis ravie d'accueillir, mais c'est pas moi qui le fais au quotidien.
Philippe Aubrac,
quelle était la vocation initiale de ce grand bâtiment qui est juste énorme
dans la région? C'était très 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 intéressant, c'est que Pelletier était la maison d'un personnage qui s'appelait Bernard de Pelletier, puis ensuite son fils Pierre-Louis, qui était trésorier des États du Languedoc, le Languedoc ancien, c'est-à-dire le Languedoc qui allait de Marmande à Beaucaire.
C'est lui qui a ramassé les sous.
C'est lui qui a ramassé les sous et qui les redistribuait. qui les redistribue. C'était donc Pierre-Louis, notamment le fils, était un homme éminent qui a été à un moment le locataire de l'hôtel de Guénégaud, que vous citiez tout à l'heure, mm-hmm. à Paris, donc maintenant le musée de la chasse. Et c'est un personnage très important qui a voulu asseoir sa puissance à travers la construction de ce château. Ça a été le grand financier du canal du Midi.
Et donc, pour terminer, juste une adresse internet, peut-être prendre enseignement sur vos vins ou sur l'activité aussi touristique.
Bien sûr, châteaudepenautier.com ou lorgeril.com.
Penautier, comment ça s'écrit,
château? P-E-2-N-A-U-T-I-E-R.
Merci beaucoup, Myrène. Ingenio BFM. Maintenant, on retrouve David Cobod, le cofondateur de cette Académie du vin de Paris, pour nous parler d'un sujet important. L'heure est grave, la sauvegarde des variétés anciennes de vignes. Oui. Qu'est-ce qui se passe, David?
Il s'est passé surtout quelque chose qui s'appelle la phylloxera. Alors, avant la phylloxera, il y avait une multiplicité de variétés de vignes dans les vignobles. Et ça a été très fortement diminué parce qu'il a fallu reconstituer un tiers, la moitié, et puis finalement la totalité du vignoble français, voire européen. Alors, dans cette affaire-là, on a perdu beaucoup de biodiversité, puisque à la fin de la phylloxera, lorsqu'on a trouvé la solution qui est un palliatif, c'est-à-dire greffer sur une porte-greffe d'origine américaine maintenant, des porte-fruits français, eh ben, la course était d'abord au rendement. Il fallait produire du vin parce qu'il y avait pénurie de vin. La résistance ou la régularité de la production, donc de nouveau du volume, du degré, parce que souvent les vins étaient vendus au degré autrefois. Hein, donc plus on produisait du degré, mieux ça valait. Plus
pisser la vigne, selon l'expression consacrée.
Oui, pas seulement. Ensuite est arrivé l'avènement des appellations contrôlées, bien plus tard, parce que là, je parle de phylloxera, c'est 1875, la solution trouvée, puis la replantation a duré 30, 35, 40 ans, et puis l'avènement des appellations contrôlées pour empêcher la fraude en 1930, où on a cherché, enfin, a commencé à définir des caractéristiques régionales liées à un certain type d'encépagement. Or, on avait perdu l'histoire de cette affaire-là. Hein. Je prends l'exemple de la Champagne, où il y avait 17 cépages autorisés, utilisés. Maintenant, il y en a 6, et on n'en parle que de 3. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de la biodiversité. Or, quelques régions ont essayé, après cette destruction qui a été quand même franc et massif, et je rappelle que la biodiversité est une priorité nationale en France. Hein. Il y a une loi de la biodiversité qui est passée, qui ne traite pas que de la vigne, mais qui traite de tout. Globalement, dans ce monde, on perd de la biodiversité tous les jours. Alors, pour la vigne, il ne s'agit pas de faire simplement un musée empélographique. Ça peut être intéressant anecdotiquement, mais il s'agit aussi de travailler sur des sujets de fond, sociétal, non seulement la biodiversité, mais aussi l'équilibre des vins. Je pense par exemple à l'acidité. Le réchauffement climatique est une évidence que seuls les imbéciles refusent ou semblent ignorer, comme un certain soi-disant candidat à la présidence de ce pays. On a un vrai problème de montée de taux de sucre et donc d'alcool dans les vins, surtout dans les vins du Sud. Une des pistes de recherche, c'est de trouver des cépages qui produisent moins de sucre dans le raisin et donc un peu moins d'alcool à la fin. Ou bien, pour équilibrer les vins, davantage d'acidité. Beaucoup de ces cépages qui ont été abandonnés l'ont été pour, à l'époque, des bonnes raisons, c'est-à-dire jamais mûrs, parce que mûrs, ils sont trop tardifs, trop d'acidité, pas assez de sucre. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la donne a changé.
Ça change, quoi, oui.
Donc, les régions qui ont investigué ça sont nombreuses. Il y a bien sûr l'INRA, qui a le Conservatoire National à Vassal, qui doit déménager, mais elle l'a toujours, et ça va perdurer. Mais il y a des régions, j'ai visité tout récemment, où j'ai dû animer une séance empélographique pour la cave de Plémont, dans le Gers, à Saint-Mont, qui a fait un travail depuis les années 70. On peut dire qu'ils ont été précurseurs grâce à André Dubos, qui était le fondateur de cette cave, qui est une unification de différentes caves coopératives dans le Gers, à rechercher dans les vieilles parcelles des cépages non identifiés qui pouvaient être intéressants à les reproduire, à les mettre dans un conservatoire de cépages. Ce travail a été mené depuis les années 70 en collaboration avec l'Institut technique de la vigne et avec l'INRA. Et lors de cette colloque, il y avait toutes les pontes de l'INRA et Jean-Michel Borseco, qui est le grand spécialiste de l'empélographie en France, un des grands spécialistes. Il y avait Laurent Audeguin de l'ITV, Thierry Lacombe, Olivier Yobrega, qui est le spécialiste local du Sud-Ouest, qui continue ce travail de chercher des vieilles variétés de vignes. Je rappelle qu'il y a une vigne qui a été seule en France, qui a été classée monument historique dans le Gers. Hein. Dans le Gers.
Ouais.
Qui a entre 150 et 200 ans, qui appartient à une famille, qui a une petite poche, qui n'a jamais eu le phylloxera, non greffé, et qui produit toujours. J'ai vu les raisins juste avant les vendanges. Il y a beaucoup de raisins.
Et comment se porte Obélix alors?
Comment?
Obélix va bien?
Eh ben, Obélix est en pleine forme, du coup. Hein. Alors, donc le travail, c'est pas de simplement conserver, c'est de voir ce que ça peut donner. Donc, on a reproduit et on commence à micro-vinifier ces vieilles cépages. Et du coup, on a pu réinscrire au catalogue, et ça c'est un autre problème dont je parlerai si j'ai le temps, mais peut-être la semaine prochaine si je n'ai pas le temps, mais de voir ce que ça donne, et ensuite éventuellement de les commercialiser. Mais le chemin est long, parce qu'il faut 10 ans d'expérimentation, de validation sanitaire, ensuite d'agrément du nom, par exemple, de la durée du vin, est-ce que ça tient dans le temps, etc. Et je parle de peut-être 15 fois 20 ans lorsqu'il s'agit d'une appellation contrôlée. Donc il y a un cépage déjà qui a été sauvé et qui était en production, qui s'appelle le Mansang Noir, qui n'est pas le Mansang Blanc, c'est une variété noire, et qui a été vinifiée en assemblant avec le Merlot, parce qu'il y en a très peu, et la cave de Pleymont était en rupture de stock tellement c'est réussi. Ouais. Donc là, on a planté 10 hectares de plus, et j'espère que ça va être le cas pour des cépages comme le Tardif. Alors, soit en cépage unique, pas nécessairement en unique, mais en apport d'assemblage, pour justement équilibrer, apporter de la fraîcheur. Mmh. Donc, il y a le double enjeu, ou triple enjeu, résistance aux maladies éventuellement, apport de la fraîcheur, réduction de l'alcool, et aussi diversité dans le goût, avec une authenticité régionale, parce que tous ces cépages sont des cépages du Sud-Ouest. Ils se sont concentrés. Il ne s'agit pas de collectionner des cépages d'Alsace. Il s'agit de se concentrer sur ce qu'on trouvait depuis très longtemps dans le Sud-Ouest, avec une origine vraiment locale et une spécificité. Et ça, je trouve que ce travail est un travail fondamental, et j'aimerais bien que des gens de France Agrimer, qui est le premier en liste pour les agréments, oui, et ensuite de l'INEO, donne un peu plus de regard sur cet aspect des choses.
Merci.
Je pense que ça va venir.
Beaucoup, David Cobold. Fin de ce numéro 613 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve toujours en public et délocalisé chez Nicolas, bar à vin, restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 13h et dimanche à 16h. D'ici là, bonne suite de week-end sur BFM Business et surtout, respectez la plus grande des modérations.